Eh bien, je vais, j'espère, terminer la série sur les offenses. Qui a été béni par cette série? Mais je vais vous dire une chose. Hein. Là, vous allez ouvrir vos quatre oreilles. Pourquoi? De naturel, de spirituel. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous gaver comme une oie avec deux messages. Donc, vous allez bien ouvrir vos oreilles, bien ouvrir votre cœur, et ça va m'aider à prêcher. Dans Actes chapitre 24, verset 16, est-ce que j'ai une... Actes chapitre 24, verset 16, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, je m'exerce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Mais une autre version dit... Je m'efforce, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Il va falloir que l'on décide de faire ce que Paul a fait. Et il dit, je m'efforce aussi d'avoir une conscience vide d'offense envers Dieu et envers les hommes. Alors, garder, cela veut dire quoi? Ça veut dire garder son cœur. Mais on sait aussi que dans l'évangile de Luc, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas d'offense. C'est-à-dire que les offenses font partie de la vie. Et l'apôtre Paul nous a montré qu'il est possible de vivre sans offense au point que l'on termine sa destinée dans le plan de Dieu, sans amertume, sans rancœur, pleinement, pleinement content. Alors, s'entraîner, s'efforcer, eh bien, cela veut dire qu'on doit avoir les moyens de lutter pour que l'offense ne prenne pas racine dans notre âme comme une mauvaise herbe. On a vu qu'une des caractéristiques de notre génération, c'est le fait que les gens s'offensent très, très, très vite. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de penser à... intenter un procès aux éditeurs de la bande dessinée Tintin, parce qu'aujourd'hui, elle est considérée comme étant pleine d'antisémitisme. Mais vous savez, quand ces bandes dessinées sont sorties à l'époque, les gens n'avaient pas ces lunettes-là et n'ont pas interprété ça comme cela. Achetaient et riaient ce film de Louis de Funès-là, Rabbi Jacob, qui me fait tellement rire jusqu'à aujourd'hui. Je peux le voir et maintenant je ris encore. Eh bien, aujourd'hui, il y a des phrases qui seraient jugées antisémites. Les choses ont changé. L'apôtre Paul, qui avait la carrure d'un nazi, eh bien, non seulement a offensé beaucoup de gens, mais en retour avait mille et une occasions d'être offensé. Il y a des gens qui sont offensés, et parce qu'ils sont offensés, ils vivent seuls. Ce sont des personnes qui vivent dans des maisons de retraite, plus personne ne va les voir, parce qu'ils ont accepté, ils ont voulu garder les offenses, et en retour, eh bien, ils ont craché le venin de l'amertume, le venin de la rancœur. Il y a d'autres qui sont malades, parce que l'offense... crée la maladie. Quand quelqu'un est offensé, eh bien, et je vais vous donner les symptômes de l'offense et ensuite des suggestions pour en sortir ou l'éviter. Mais l'offense, c'est subtil. Et quand l'offense s'installe dans l'âme de quelqu'un, il va y avoir des conséquences. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter à la légère, mais l'apôtre Paul disait, eh bien, je m'efforce, je vais devoir faire des efforts pour gérer cette offense. Je vais devoir travailler, je vais devoir lutter pour ne pas accepter l'offense ou pour me débarrasser de cette offense. Mais vous savez, quelquefois, ça fait plaisir aux gens de garder les offenses, parce que dans leur tête, ils ont l'impression d'imposer une revanche à la personne qui les a offensés. C'est purement illusoire. Parce que très souvent, la personne qui vous a offensé va bien. Ah, d'abord, peut-être qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle vous a offensé. Et ensuite, la vie continue, mes amis. La planète Terre, vous avez remarqué qu'elle continue à tourner sur elle-même. La vie continue, sauf celui qui garde l'offense. Alors, dans Luc 17, je vous le répète, versets 1 à 4, mais simplement écoutez-le, Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il n'y ait pas des causes de chute. Alors, premier signe de la présence d'offense, c'est pas forcément dans l'ordre d'importance ou autre, vous les prenez dans n'importe quel autre, mais en tout cas, ce sont des symptômes. Les retraits dans des relations où les gens arrêtent de communier, c'est-à-dire, les connexions sont brisées, on cesse de parler, on cesse de téléphoner, on évite. Vous avez déjà vu des gens qui changent de trottoir? Des gens qui cessent de vous parler? Et les offenses sont souvent dans l'un des deux plus que dans les deux. En général, il n'y a pas les deux qui restent offensés, mais il y en a surtout un. Deuxième symptôme, deuxième signe, c'est le ressentiment. Le ressentiment ou la rancœur, c'est le souvenir d'une injure ou d'un préjudice. Et cette amertume va détruire la joie. Des gens qui perdent leur joie, ce n'est pas forcément à cause de la fatigue. Bien que même fatigués, on devrait continuer à exprimer la joie. Qui a dit que quand on a un problème, on doit cesser de sourire? Vous savez, en France, quand on est sérieux, on ne sourit pas. Quand on est sérieux, on fait la tête. Mais qui a dit ça? Alors, ce ressentiment-là, il est dans l'âme, il est dans les pensées, il peut conduire à l'amertume, mais il conduit très certainement à la fatigue, à des maux de tête, à des ulcères, à la tension, à des maux de dos, à un manque de sommeil, et j'en passe, et des pires. C'est-à-dire que quelqu'un qui va garder une offense, c'est quelqu'un qui va finir par créer une telle tension dans son âme qu'elle va finir par transpirer, qu'elle va finir par transparaître dans son corps. Et quelquefois, on prie trop vite pour les malades. Si c'est un problème d'offense qui est à la base de la maladie d'une personne, ça ne sert à rien de lui imposer les mains. Parce qu'il faut d'abord qu'elle traite le problème de l'offense. Et combien de fois on n'a pas vu quand le problème de l'offense est traité, la personne est en bonne santé, sans même qu'on lui a imposé les mains. Donc, les relations sont perturbées, voire coupées, du ressentiment qui amène à l'amertume. La méfiance, ça c'en est un, tiens. Les gens qui sont offensés se méfient de tout le monde, y compris des autorités, c'est-à-dire y compris de l'employeur, y compris peut-être du pasteur, y compris de la personne sous l'autorité de laquelle on est placé. Et ça, cette méfiance, c'est un poison. Parce que si tu te méfies de la personne avec qui tu passes des contrats, si tu te méfies de la personne pour laquelle tu travailles, tu vas interpréter tout ce qu'il fait avec les lunettes de cette offense, de cette méfiance. C'est-à-dire que quand il te dit quelque chose, au lieu de l'accepter, tu vas dire « je me demande s'il ne me le dit pas parce que ». On a vu ensemble que l'offense conduit à la trahison, très souvent c'est aussi à la divulgation. C'est-à-dire que quand les gens sont offensés, tout d'un coup, ils se mettent à divulguer des secrets. Ah ça, c'est terrible ça. Tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, tu sais combien de personnes ont été déportées parce qu'elles ont été trahies par un de leurs voisins qui avait été offensé parce qu'ils avaient planté un arbre au mauvais endroit. Et là, quand on pouvait divulguer les secrets, c'était le moment pour que tous ceux qui soient offensés se vengent. C'est terrible cette histoire-là. Les offenses. Un autre symptôme, bien, ce sont des prières qui ne sont pas exaucées. Alors, quelquefois nos prières ne sont pas exaucées parce que la Bible dit, parce qu'on a demandé, c'était purement égoïste ce qu'on demandait. D'autres fois, c'est parce que on n'avait pas la foi tout simplement. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi pour croire que Dieu te donne 100 euros à la fin du mois, il ne va pas te donner 1 million d'euros à la fin du mois. Il faut être raisonnable, par palier. Quelquefois, nos prières ne sont pas exaucées, à cause des offenses. Et le Seigneur dit, avant de prier, va d'abord te réconcilier. Ça ne veut pas dire que l'autre voudra la réconciliation. Tu ne peux pas imposer la réconciliation à quelqu'un. Mais toi, tu peux garder ton cœur devant Dieu. Vous voyez la différence? Parce que quelquefois, l'autre ne veut pas se réconcilier et on croit que c'est notre faute. Mais chacun est responsable du fait qu'il accepte ou qu'il rejette la réconciliation. Mais si toi, tu proposes la réconciliation à quelqu'un et que la personne rejette cette réconciliation, ne t'en sens pas coupable. Les prières qui sont non exaucées. Autre chose, c'est le souvenir des événements qui ont blessé ou soi-disant blessé. C'est étonnant comme les gens qui sont offensés ont une bonne mémoire pour les choses négatives qui ont été faites contre eux. Et ces souvenirs deviennent une image mentale qui les suit partout, mais qui va certainement bloquer la bénédiction. Alors, maintenant que nous avons vu quels sont les symptômes d'une âme qui est offensée, je vais vous donner des suggestions pour surmonter l'offense ou pour que cette offense, vous ne la receviez pas parce que l'occasion va se présenter. Est-ce que j'ai une autre image là, hein? Donc, l'occasion, parce que comme Jésus a dit, sur cette terre, tu auras mille et une occasions d'être offensé, de te vexer. Tu auras mille et une occasions d'être scandalisé. Nous l'avons vu même par la parole de Dieu. Vous vous rappelez ce message? Même une parole de Jésus peut t'offenser. Tu dis oui à ça, hein? Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, moi aussi j'ai déjà été offensé par des choses que Dieu m'a dites. Mais il y a une manière de surmonter cette offense. L'offense va frapper à la porte. L'offense va chercher à te séparer de ton conjoint. L'offense va chercher à te séparer de tes enfants. L'offense va chercher à te séparer de tes parents, de tes meilleurs amis, de ton église. Mais ce n'est pas parce que l'offense se présente qu'il faut que tu l'acceptes. N'oublie pas, l'offense va se présenter à toi avec un sentiment et de douleur et le sentiment que tu as la possibilité de te venger dans tes pensées en lui répondant dans tes pensées uniquement. Et là, clac, le piège se referme sur toi. Ce qui veut dire que tu as la possibilité de contrôler ce qui se passe dans tes pensées. Donc, vous aimez ma petite image ? Et voilà ce que l'on va faire quand une offense se présente à nous. Dans Matthieu chapitre 18, et là nous pouvons ouvrir notre Bible, dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et toute une tribu. C'est ce qu'il est dit? Va et reprends-le devant 150 personnes. Non, qu'est-ce qu'il est dit? Va et reprends-le seul. Au départ, voilà comment ça se passe. Et la Bible nous dit que si ça ne s'arrange pas, si la relation ne s'arrange pas, eh bien dans ces cas-là, il y a une autre étape dans le processus de réconciliation. Mais si tu estimes que quelqu'un t'a offensé, eh bien voilà comment tu peux chercher et proposer la réconciliation. Maintenant, demande la sagesse à Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de la réconciliation. C'est aussi simple comme cela, que ça, il faut l'accepter. Il y a des gens qui ne veulent pas de la réconciliation et qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu leur reparles de la situation. Ils ne vont pas entendre réconciliation, ils vont juste entendre que tu leur donnes une occasion pour remettre cette situation sur le tapis, mais ils n'ont pas envie de se réconcilier avec toi. Donc ces gens-là, eh bien, ne va pas tout de suite leur parler de la réconciliation. Pose des questions à Dieu, dis « Seigneur, j'aimerais me réconcilier avec cette personne, mais si cette personne est verbalement agressive, si cette personne est encore sous le choc de l'émotion, eh bien, attends un peu avant d'en parler. » Mais en tout cas, la Bible dit, si quelqu'un t'a offensé, si tu as quelque chose contre ton frère, ce qui veut dire que ça peut arriver. Non, pas à l'église la bonne nouvelle, Seigneur. Voilà, ça. Mais pour des nouveaux qui arrivent et qui ne savent pas qu'à l'église la bonne nouvelle, on ne s'offense pas, eh bien, ce verset va les aider. Ça leur rendra un grand service. Hein. Il est dit donc, si ton frère a péché, va et reprends-le contre toi et lui seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Je vais en parler ça tout à l'heure. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Donc cela, c'est dans le cadre de l'église. Mais c'est la même chose pour la famille. C'est-à-dire que si quelqu'un dans la famille t'a vraiment offensé et que tu ne t'en sors pas, tu sais, quand quelqu'un t'offense, tu n'as pas à aller le voir à chaque fois, que c'est pas nécessaire. Ouais, mais tu comprends, le Seigneur a dit, eh bien, tu vas et puis tu traites, tu gères cette affaire avec la personne. Les trois quarts du temps, tu n'as même pas à en parler à la personne. Mais si c'est un truc qui est vraiment, tu n'arrives pas à surmonter, si c'est quelque chose qui est énorme, la Bible dit alors tu vas voir cette personne et tu dis, tu sais quoi, écoute, moi je ne veux pas, il faut qu'on en parle. Moi je ne peux pas rester comme cela parce qu'à chaque fois qu'on se voit, les relations sont brouillées, il y a de la suspicion, j'ai perdu ma liberté. Bon, tu en parles. La Bible nous dit, si la personne ne t'écoute pas, c'est-à-dire si la personne eh bien, n'est pas prête à la réconciliation ou reste sur ses positions et que toi aussi tu restes sur ses positions, mais tu veux la réconciliation, eh bien, tu invites d'autres personnes dans la discussion. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le fasses à chaque fois et il ne faut pas non plus que tu te présentes comme un huissier. Je prends note. Au cas où, clac, je te fais un procès, je te le ressors dans les dents. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi on le fait. Mais ça n'est pas du tout dans cette attitude-là. Mais la Bible dit que si la personne ne se repent pas encore et on ne s'en sort pas, alors dans ces cas-là, ça va être traité d'une manière publique. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Extrêmement rare. Mais en tout cas, ça peut être traité dans une famille. Parce que ça, on entend ça pour l'église, mais c'est valable pour n'importe quel groupe ou au travail. En tout cas, on peut dire, tu sais quoi, on va réunir la famille, les parents sont là, les enfants sont là, et maintenant, on va traiter de manière publique, même si c'est quand même privé, mais à une plus grande échelle. Dans ce silence charismatique, je vais continuer. Bien. Ensuite, la Bible nous dit, ben voilà ce qu'elle nous dit de faire. Donc, premièrement, on doit apprendre à gérer l'offense de manière biblique. On ne va pas raconter aux autres le mal que quelqu'un nous a fait ou nous aurait fait. On n'en parle pas à quelqu'un d'autre avant d'en parler à la personne elle-même. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Deuxième point, eh bien, ne tombons pas dans le piège d'être le juge des motifs de l'autre. Très souvent, on est offensé ou on garde une offense parce qu'on a prêté des motifs à l'autre. Dieu est le seul qui connaît le cœur. Honnêtement, on n'en sait rien. Dans Matthieu chapitre 7, verset 1, il est dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. » On peut juger le fruit de quelque chose, mais le cœur, eh bien, humainement, on ne peut pas le juger. Sauf si Dieu nous donne une révélation, parce que j'ai dit qu'un jour je prêcherai là-dessus et je ne l'ai pas encore fait, mais la Bible nous dit aussi dans Corinthiens que celui qui est spirituel juge de tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, celui qui est spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui a la parole en Dieu, de Dieu en lui, quelqu'un qui marche dans l'esprit, Dieu va le rendre capable de juger. Mais quand quelqu'un de spirituel juge et voit les choses, oui c'est bien, non c'est pas bien, oui il l'a fait pour ci, oui il l'a pas fait pour cela, eh bien le cœur de celui qui juge est préservé et il continue à aimer. Mais quand on juge humainement les motifs de quelqu'un alors qu'on n'en sait rien, en général on prononce une sentence de valeur sur la personne. Et Dieu dit, ne faisons pas cela. Dieu est le seul qui peut juger les motifs. Les trois quarts du temps, la personne qui vous a offensé n'a jamais eu l'intention de le faire, n'a jamais eu l'intention que vous lui prêtez en tout cas. La meilleure manière de se retrouver sous le jugement, eh bien, c'est de le construire soi-même. Les offenses peuvent arriver à nous faire douter de ce que nous étions sûrs. Des fois, on est sûr de certaines choses, mais parce qu'on est offensé, on remet tout en question. Et pour moi, pasteur, c'est très facile. Je vois parfois des gens qui viennent à l'église qui me disent « Pasteur, je sais, ici c'est mon église, tu es mon pasteur, je t'aime. » Très bien, très bien, moi aussi je crois que tu es dans la bonne église, oui. Et puis, 6 mois plus tard, il y a quelque chose qui se passe, ils sont offensés et l'Esprit de Dieu les appelle ailleurs. Ça, mais je l'ai vu combien de fois, hein? Mais à cause de l'offense, ils commencent à douter de certitudes qu'ils avaient dans le cœur. Alors, il faut accepter d'accorder à l'autre le bénéfice du doute. Parfois, les gens, quand vous leur dites « Mais tu sais à quel point tu m'as choqué », ils sont choqués eux-mêmes que vous soyez choqués. Les paroles, très souvent, sont mal interprétées. Alors, qu'est-ce que faut-il faire? C'est le moment de faire preuve de grâce envers l'autre, de donner la grâce à l'autre. De dire « Tu sais, écoute, bon, voilà, j'avais perçu les choses comme cela, je me rends compte que toi, tu me donnes une autre version, je vais accepter de te croire. » Écoutez bien ceci, cette phrase n'est pas de moi, mais elle est vraiment bonne. Au lieu d'essayer de lire les motifs de l'autre, lisez plutôt ceux du diable qui vient pour vous voler. Parce que derrière toutes les tentations de se laisser offenser, c'est le diable qui se cache derrière, qui va saisir une erreur humaine et qui va commencer à inspirer. Oui, mais tu sais, il n'aurait jamais dû dire ça. Et il n'aurait jamais dû... Oh, mais bien sûr, non mais... Et tout d'un coup, il y a un dialogue intérieur qui s'installe et ce qui était au départ une faute humaine, simplement la vie sur terre, quelqu'un qui est trop fatigué, quelqu'un qui a dit si, qu'il n'aurait peut-être pas dû le dire sur ce ton-là. Et paf, le diable s'immisce dans la conversation. Et ce qui était au départ un sujet qui n'était franchement pas important, une voiture mal garée. Au départ, ce n'était pas important. Ça devient une montagne, une affaire d'État. Et tout d'un coup, c'est la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être essayé de lire trop vite les motifs de l'autre. Mais arrête-toi et pense plutôt aux motifs du diable dans cette affaire-là. Un autre point, eh bien, pardonnons au lieu de nous venger. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 19, « Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour. » Alors, on sait que le Seigneur n'exerce pas sa colère concernant le salut. Mais c'est un Dieu de justice quand même. Et tu sais, il n'y a pas d'amour sans justice. Il n'y a pas de compassion sans justice. Donc si tu estimes que quelqu'un t'a volé, et peut-être que tu as raison, quelqu'un t'a volé, mais ne te laisse pas offenser. Parce que non seulement tu as été volé, et maintenant tu risques d'être malade. Et en plus de perdre d'autres portes d'opportunité, de ne pas les voir s'ouvrir devant toi, parce que maintenant tu as laissé l'offense s'enraciner dans ta vie. Alors pardonner, ça veut dire quoi? Ben pardonner, ça veut dire je te libère de ta dette, tu ne me dois rien. Après tout, tu ne me dois rien. Pourquoi? Parce que Dieu est ma source. Dieu est celui qui m'accorde, qui me donne mon futur. La provision vient de Dieu. Mon futur est en Dieu, est en Dieu. Si, ce qu'il veut dire, ben, il va falloir que quelqu'un cède. Deux personnes ne peuvent pas tirer dans du, par exemple, un chariot ou ce que vous voulez dans deux directions différentes. C'est pas possible. Donc, il y en a un qui doit céder. Et peut-être que quelqu'un dit, et je l'entends, oui, mais tu sais ça, c'est ça le problème, c'est moi qui cède toujours. Question, non, c'est Dieu qui cède toujours. Dieu qui cède toujours à cette personne qui dit « c'est moi qui cède toujours ». Et tu sais, la Bible nous dit que les plus forts doivent supporter les plus faibles. Si tu estimes être plus fort, alors tu as la grâce de céder. Mais rappelle-toi qu'avec toi, Dieu a cédé beaucoup, Dieu a cédé son Fils. Alors, pardonnons rapidement. Parfois, il faut passer sur les choses que l'on a vues, sur les choses que l'on a entendues. Fermer les yeux, tout simplement. Je ne suis pas en train de te dire de dormir maintenant. Donne un coup de coude à ton voisin. Tu sais, l'ennemi va toujours exagérer ce qu'il te dit concernant cette situation. Donc, donnons cette situation à Dieu et, dis à ton voisin, et cessons d'en parler. C'est-à-dire, on ferme notre bouche et on dit, Seigneur, je vais laisser là où je l'ai mis. Je t'ai parlé de cette situation et cette situation, je n'ai pas pu en parler devant la croix. Je sais que ça choque beaucoup de chrétiens, mais un jour, je l'ai dit, il n'y a plus personne sur la croix. Mais cette situation, je ne l'ai pas mise à la croix. Non ? Je l'ai laissé où ? Sur le trône de la grâce. C'est pas là où le jugement a été appliqué. C'est sur le trône de la grâce. Donc je vais accepter que Dieu fasse grâce. Et moi-même, en retour, parce que Dieu m'a fait grâce, je vais faire grâce à celui ou à celle qui m'a offensé. Autre chose que l'on va faire, c'est quand vous sentez qu'il y a une situation qui est en train de s'envenimer, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous vous débattez avec cette situation depuis je ne sais combien de temps, et puis vous n'arrivez pas à vous en sortir, eh bien, il peut y avoir un moment où dans la conversation, on s'est tellement enflammé, surtout dans le sud, parce que nous, dans le nord... C'est plus froid, non. Mais peut-être qu'on s'est tellement enflammé, ça t'est déjà arrivé de dire « Bah, je ne peux plus me défendre. » Et je ne peux plus me défendre parce que je ne sais même plus comment on a commencé la conversation. Ça t'arrive, tu te perds, tu coules là. Tu te dis « Mais attends, pourquoi on se dispute là ?» Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, tu peux demander à la personne de t'excuser. Tu dis, écoute, on va mettre cette conversation sur pause. J'ai besoin de m'arrêter. Tu dis, donne-moi 15 minutes. Tu sors, tu vas te promener, tu vas dans la chambre et tu fais la sieste. 15 minutes, fais une sieste de 15 minutes. Et quand tu vas te réveiller, eh bien, tu verras les choses différemment. Peut-être que pendant 15 minutes, tu peux écouter un CD d'adoration. Tu dis, je vais m'en mettre plein les oreilles. Je vais pomper la parole de Dieu, là. Et ça va, je vais surmonter cette situation. Peut-être que tu as besoin de sortir, disais, bouge pas, donne-moi 15 minutes et tu enfiles tes baskets et tu vas faire un jogging. Et tu cours aussi vite que tu peux. Mais ce que je veux dire, c'est donne-toi les moyens de ne pas te laisser embourber dans cette situation, dans cette conversation. Et de finir par dire des choses que tu regrettes avoir dites. Moi, je ne crois pas que sous la pression, les gens ne pensent pas à ce qu'ils viennent de dire. Non, ils pensent. Ils viennent juste de te dire à quoi ils pensaient. Quelquefois, les gens, ils te lâchent une bombe et disent « Attends, excuse-moi, parce que j'y pensais pas. » Ah ouais, et qui pensait alors à ça? Bien sûr que tu y as pensé. Le problème, c'est que tu l'as mal dit. Et peut-être pas au bon moment, et peut-être pas sur le bon ton. Et ce que cela révèle, c'est qu'il y a un sujet qui a besoin d'être mis à plat. On a besoin de parler de cela. Parce que s'il n'y avait pas eu la pression, je ne l'aurais pas lâché. Non, non, mais ça ne concerne personne à l'église, la bonne nouvelle. C'est juste pour les autres. Pour tous ceux qui écoutent Internet, il y en a beaucoup qui écoutent Internet, hein, ben c'est pour eux. Bonjour les amis d'Internet, on pense à vous. Joyeux anniversaire. Et puis donc, au bout de 15 minutes, une sieste, tout ce que vous voulez, vous revenez, vous êtes plus relax ou carrément dans le brouillard, c'est peut-être pas plus mal, vous reprenez la conversation. Il y a encore autre chose, on en a parlé tout à l'heure. Invitez une tierce personne dans la conversation. Pourquoi ? Parce que quelquefois, on est tellement obtus, borné, moi non, mais c'est à vous que je m'adresse. On est tellement sûr de ce que l'on pense, tu sais. En plus, quand tu as l'habitude de prendre des décisions, là, tu présentes une affirmation comme si c'était une décision d'État. Cac ! Ben, c'est ça la vérité. Et quand on invite une tierce personne dans une conversation un petit peu houleuse, eh bien, l'autre personne n'est pas aussi émotionnellement impliquée que nous. Donc, ça veut dire que non seulement elle va réussir à entendre les deux côtés, et puis elle va réussir à prendre suffisamment de recul, et peut-être elle va réussir à nous dire que nous avions tort. Non, pas l'Église à Bonne Nouvelle, parce que nous, tout le monde a raison ici. Donc, il est bon quelquefois de dire, encore une fois, ce n'est pas un huissier de justice qui va vous redonner au tribunal toutes les paroles que vous avez prononcées. Ça n'est pas cela. Parce que quelquefois, j'ai vu cela et c'était déformé, cette approche. Mais quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement, qui va pouvoir entendre les deux, qui va peut-être pouvoir nous dire, tu sais, il faut que tu acceptes d'écouter ce que l'autre a à dire, parce que voilà ce que j'entends. Parce que très souvent, quand on est offensé, ben, on ne veut pas entendre ce que l'autre a à dire. On est sûr d'avoir entendu, et en plus, dans notre tête, on lui a déjà donné notre réponse 1000 fois. Donc, il a tort. Et j'ai raison. Invitez une tierce personne. Cette personne sera indépendante, et parfois, nous découvrirons que nous avions tort. Un autre point qui va aider dans une situation de conversation qui relève de l'offense, c'est de réaliser que notre opinion n'est que notre opinion. Très souvent, la plupart des conflits ne tournent pas autour d'un absolu, mais d'une perspective qui ne peut être que subjective. Les offenses sont très souvent illogiques. C'est illogique. J'ai une amitié avec telle personne depuis je ne sais combien de temps. Je travaille dans cette entreprise depuis je ne sais combien de temps. Je vais dans cette église depuis combien de temps. Je suis mariée à tel homme ou à telle femme depuis combien de temps. Et tout d'un coup, il y a cette offense qui est là. C'est complètement illogique et tout est remis en question. Pourquoi ? Très souvent, pour quelque chose qui est uniquement subjectif. Donc, encore une fois, permettre à une tierce personne d'être dans la situation va permettre de garder un regard objectif. Donc, apprendre à séparer les sujets qui sont importants de ce qui n'est pas important. Bien sûr, en toute chose, nous devons apprendre à parler avec respect. Mes amis, à partir du moment où il n'y a plus le respect dans une relation, il n'y a plus de relation. Faites ce que vous voulez, il n'y a plus de relation. Alors, le respect, bien sûr, ça commence dans les pensées. Mais très souvent, ça boue, ça. Hein, on a tendance à voir le défaut de l'autre et à s'en servir comme arme, même si ça n'a rien à voir avec le sujet de l'offense. Mais le respect, ça va commencer par quoi? Par la parole. Je vais mettre des limites à ce que je me donne le droit de dire. Je vais mettre des limites aux mots que je vais employer. Il est hors de question. Vous vous rappelez ce sermon que j'avais fait sur les mots grossiers? Hein, peut-être que quelquefois, on a besoin de reprendre ce message-là et de dire, OK, comment est-ce que je peux jauger mon vocabulaire quand je suis dans une conversation houleuse? Mais il y a des limites, il y a des mots qu'on ne doit pas dire. Un couple, le mot mariage, tu t'en sers pas comme menace. C'est quoi cette histoire-là? Divorce, pardon. Dans un mariage, on n'utilise pas le mot divorce. Rappelle-toi que tu as ce que tu dis. On n'utilise pas ce mot. C'est un mot qu'on a laissé dans la tombe avec Jésus-Christ. On ne brandit pas la menace. Ouais, mais si tu, je divorce. Tu dis, t'es qui toi pour eux? T'es qui là pour me parler de la sorte? Je suis ton ami. Pour l'instant, tu m'énerves, mais je suis ton ami. On a fait alliance. Tu n'es pas mon ennemi. Donc, on va essayer de rester du même côté de la barrière. Il y a un ton que l'on ne doit pas employer. Un volume de voix. Tu sais que le volume de voix, à part épater tes voisins dans le mauvais sens, il ne va pas du tout arranger la situation. Il y a des limites. On doit contrôler notre âme. Parce que ça n'est plus ce que tu dis qui devient important, c'est la manière dont on va le dire. Il y a tellement de situations qui se sont envenimées à cause de la manière, alors que le sujet de l'offense lui-même aurait pu être réglé facilement. Parce qu'une fois que tout le monde a fait une sieste, on comprend que finalement ça n'a plus trop d'importance. Si on a bien appuyé sur le tube de dentifrice ou si au contraire on a laissé le bouchon ouvert avec de la pâte de partout. Ça n'a plus trop d'importance là. Et puis tu sais, pour simplifier le sujet, achète deux tubes de dentifrice et puis comme ça le truc est... Voilà, ça c'est simple. Hein, ayez deux lavabos chez vous et deux salles de bain, c'est encore mieux. Un dernier point, apprenons à être flexibles. Souvent, il y a des conflits parce que les circonstances changent, l'emploi du temps change, mais dis-toi bien que le changement est inévitable. Tu sais, combien de fois on sait que le Seigneur dit voilà, je fais une chose nouvelle. À vrai dire, les choses nouvelles, elles sont nouvelles que pour nous qui les découvrons. Hein. Quelquefois, il y a des choses que Dieu a faites il y a 100 ans, et puis il remet l'accent sur tel sujet, mais voilà, c'est nouveau pour nous. Mais en tout cas, tout sur cette terre bouge. Le royaume de Dieu est sans cesse en mouvement. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu du mouvement. Dieu lui-même est sans cesse en mouvement. Si bien qu'il y en aura toujours dans notre vie. La question est-ce que tu t'accroches à ce qui est ancien? Est-ce que tu t'accroches, est-ce que tu refuses d'aller de l'avant? Non, ça c'est une des qualités que l'on doit apprendre de la part de Dieu. C'est « Seigneur, j'accepte que les choses changent. » Et si les changements que je vois maintenant ou que je vis maintenant, eh bien, je ne les aime pas. Quelquefois, il est bon de dire « je n'aime pas ce changement. » Je ne vais accuser personne parce que je ne suis pas une victime. Et même si j'étais une victime, au lieu de me laisser offenser, je vais mettre ma confiance dans le Dieu que je sers, dans celui qui m'aime, dans celui qui est mon père spirituel, dans celui qui a un avenir pour moi, parce que mon avenir ne dépendra que de Dieu. Amen. Alors voilà ce que j'avais à vous apporter pour conclure cette série sur l'offense. Et puis, merci. Ce livre-là, je l'ai lu il y a des années. « L'offense, l'arme cachée de Satan » de John Bevere. Il est excellent. Si vous estimez que vous avez besoin de réécouter ce message, et encore une fois, hein, là nous sommes assis et tout va bien, on est dans la présence de Dieu, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit offensé à l'instant même de ce qui se passe maintenant, sauf ceux qui auraient voulu sortir plus tôt, et dans ces cas-là, je ne vous demande pas pardon. Mais non, mais en tout cas, il y a ce sujet-là de l'offense qui est traité par John Bevere. C'est très bien. Réécoutez tous les messages. Si vous dites « Ouh là 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 là, je sens que je vais m'offenser, je vais garder l'offense. » Tu veux remettre ma petite image, s'il te plaît, Marie-Pierre ? Eh bien, dans ces cas-là, revoyez cette image-là, un bon coup de pied dans l'offense. C'est pas dans celui qui vous a offensé. Hein ? Ça, c'est vis-à-vis de l'offense elle-même. Et dites « Par la grâce de Dieu, je refuse d'être esclave d'une offense. Je refuse de me soumettre au plan du diable. » Parce que derrière tout cela, ce sont ses intentions que je lis. C'est son plan que je vois. En ce qui me concerne, je vais m'arranger pour rester libre. Et Dieu vous donnera toujours, toujours, toujours. Si vous prenez cette décision, Dieu vous donnera toujours les moyens de rester libre. Il vous rappellera un verset. Peut-être que quelqu'un vous passera un coup de téléphone et puis dans une conversation, eh bien, vous aidera. Peut-être que vous écoutez un message sur Internet et clac, le sujet va parler de cela. Il y a la grâce de Dieu qui sera là. Donc, on va garder nos pensées sur la vérité, sur la parole. Et quand la pensée du sujet de l'offense revient, on dit « Non, dans le nom de Jésus, je change de chaîne. » Ça, c'est la clé. Non pas « je médite », parce que la méditation devient une semence qui va se transformer en parole. La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Non, je refuse même de toucher à cela dans mes pensées. Je refuse. Parce que ma liberté est plus précieuse que le résultat que j'obtiendrai par l'offense, ce qui est quoi ? Ben, l'esclavage.